Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Ondaine. On est avec vous dans le cadre d'un projet étudiant qu'on est ravis de vous présenter, accompagné de Laura.
Bonjour.
Colline.
Bonjour.
Et moi-même Maxence. Aujourd'hui, on ouvre une discussion essentielle sur les violences conjugales, sexistes et intrafamiliales autour d'une table ronde radiophonique.
En effet, Maxence, autour de ce projet, nous avons sensibilisé, informé et ouvert un espace de parole pour mieux comprendre et lutter contre ces violences qui touchent des milliers de personnes chaque année. En 2023, ce sont par exemple 191 679 victimes de violences intrafamiliales qui ont été enregistrées, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Des chiffres rapportés par le ministère de l'Intérieur qui témoignent de l'ampleur de ces violences. Cependant, de nombreuses autres victimes restent silencieuses, d'où la nécessité d'agir.
Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons le plaisir de recevoir Caroline Gaillard, psychologue à Saint-Étienne, située à la Métard. Elle accompagne les familles et plus particulièrement les enfants confrontés aux violences intrafamiliales. Bonjour Caroline, vous allez bien ?
Oui, merci.
Merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a emmené à devenir psychologue ?
Alors, mon parcours, donc je suis psychologue clinicienne. Ce qui m'a amené à devenir psy, c'est l'intérêt pour les études de psy, la lecture. Moi, j'étais très littéraire. La lecture de bouquins sur la vie psychique, de Maupassant à Freud, et puis du coup, l'intérêt pour la psycho, une fac de psycho. Et par contre, une particularité, c'est que pendant la fac de psycho, j'ai fait un DU en criminologie et en médecine légale, psychiatrique. Et donc, voilà, je suis devenue psychologue clinicienne et criminologue. Voilà, en gros, ça, c'est pour mes études. Après premier job, du coup, spécialiste du traumatisme, donc premier job en service d'aide aux victimes, où j'ai été à temps plein et où, du coup, j'ai accompagné physiquement et psychiquement des personnes victimes d'agressions et de crimes diverses pendant plusieurs années avant d'être en libéral en plus, puis exclusivement en libéral et expert auprès des tribunaux. Voilà.
Concernant maintenant les parents, comment va se passer leur prise de conscience et vous, quel va être votre rôle vis-à-vis de cette prise de conscience-là des violences intrafamiliales et conjugales ?
Alors là, c'est un peu compliqué parce que d'abord, il faut savoir que énormément, je ne me souviens plus le pourcentage, mais peut-être vous pourrez le chercher, énormément de violences conjugales démarrent à partir de la première grossesse. Pour la simple et bonne raison que la relation est tellement fusionnelle que finalement l'arrivée du bébé dans le corps de la partenaire est insurmontable, insupportable. C'est comme un tiers insupportable. Et du coup, une grande partie des violences physiques, souvent elles avaient commencé psychologiques avant ou de dépendance, une grande partie des violences physiques arrivent au moment de la première grossesse. La plupart du temps, l'illusion de l'emprise fait que il y a des personnes qui ne partent pas tant que le conjoint ne s'en prend pas physiquement à l'enfant. Et ça peut être parfois le déclic. C'est difficile de dire ce qui fait déclic, mais en gros, voilà, parfois c'est le fait que la violence se retourne contre les enfants, ça permet de partir, de réaliser, de mesurer. Comme si pendant des années on avait pensé qu'on protégeait les enfants en restant avec le conjoint violent, alors qu'on les expose en fait. Mais.
Et vous jouez quel rôle dans le suivi psychologique et dans la reconstruction des victimes ?
Alors là, c'est un peu compliqué parce que moi, mon rôle, quand j'étais au service des deux victimes, c'était dans l'accompagnement, c'est-à-dire mettre des mots, travailler sur les symptômes post-traumatiques, de reviviscence, accompagner la prise de conscience de l'aspect anormal d'une relation d'emprise, expliquer qu'une relation d'emprise, c'est une relation d'un sujet sur un qui fait de l'autre son objet, et pas d'une relation de sujet à sujet. On n'est pas sur le même pied d'égalité, et c'est ce qui crée l'emprise, c'est les conséquences de l'emprise, pardon. Donc ça, c'est dans le cadre de l'aide aux victimes où j'accompagnais les étapes de la procédure, c'est-à-dire préparer aux auditions, aux confrontations, aux procès, etc. Dans le cadre du libéral, c'est un petit peu différent puisque je le fais de ma place de thérapeute, mais c'est pas non plus un engagement dans l'accompagnement de la procédure. C'est surtout de l'écoute et de l'accompagnement au rythme du patient, de la prise de conscience de la violence, de ce qu'il accepte, de ce qu'il est en droit de plus accepter, et puis de rappeler la loi quand même. C'est-à-dire que même si c'est qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, la loi, elle dit des choses, elle pose des limites, donc c'est de rappeler la loi. Après, en tant qu'expert judiciaire, c'est pas pareil. En tant qu'expert judiciaire, moi, je suis là pour évaluer les conséquences des faits sur la personne. Donc c'est pas tout à fait la même place, ça, c'est de l'ordre de l'évaluation.
Qu'en est-il des enfants, souvent considérés comme témoins, mais pourtant victimes indirectes de ces violences ?
Alors, les enfants exposés aux violences conjugales ont la particularité que l'exposition suivant l'âge de l'enfant est exactement la même chose que l'exposition directe. C'est-à-dire qu'un enfant qui assiste à des violences conjugales répétées ou particulièrement violentes va avoir les mêmes conséquences dans son psychisme que s'il était lui-même exposé et victime directe. Ça, pour le coup, c'est quand même de plus en plus reconnu. C'est-à-dire, quand j'ai démarré il y a 20 ans, c'était très difficile d'expliquer et en psychologie et à la justice que l'exposition indirecte pouvait être aussi violente que l'exposition directe pour un enfant. Aujourd'hui, on les considère comme victimes collatérales quand même. Et il y a une prise en charge, par exemple, dans les signalements de violence conjugale, il y a un signalement qui part pour le juge des enfants et que les enfants soient accompagnés vu qu'il y a une enquête sociale. Donc ça, il y a eu une grosse évolution là-dessus.
Et du coup, vous nous avez parlé justement des enfants qui devenaient victimes collatérales de ces violences-là. Pour vous, quels sont les signes qui peuvent alerter justement et qui peuvent permettre aux personnes extérieures aussi d'être alertées de ces violences-là?
Alors, les signes des signes-là pour les victimes ou les signes pour les enfants? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Bah, les signes dans le couple?
Pour les deux.
Pour les deux. Oui. Les signes dans le couple, les signes d'alerte d'instauration de la violence conjugale, par exemple, c'est la relation fusionnelle. C'est-à-dire que les relations très fusionnelles, très tôt, très vite, très fort, qui deviennent exclusives, sont quand même un petit peu, moi, me font un petit peu cliquer. C'est-à-dire que, puisque un des premiers jalons de l'emprise, c'est l'isolement, et que plus la relation est fusionnelle exclusive, plus l'isolement est certain. Ensuite vient le dénigrement, d'abord de l'entourage. Regarde ta famille, de toute façon t'es moins bien quand tu en rentres, et du coup il y a un isolement de plus en plus fort, ça renforce l'isolement, ça commence à confusionner aussi, tiens mon environnement est moins bien que ce que j'imaginais pour moi, ma famille est toxique pour moi, etc., ça amène du doute, et puis arrive le dénigrement de l'autre, c'est-à-dire regarde dans quel état tu me mets, le retournement, regarde ce que tu me fais faire, regarde dans quel état, regarde comme tu m'énerves, regarde comme tu fais pas comme il faut, etc. Ça, c'est l'évolution un peu classique. C'est toujours très caricatural quand on explique très rapidement, mais c'est l'évolution un peu classique de la relation de couple qui va se transformer en relation de violence conjugale, en relation d'emprise. Après, chez les enfants exposés aux violences conjugales, de toute façon, en général, les enfants exposés à des violences, directes ou indirectes, ils ont des réactions assez typiques. C'est-à-dire que soit ce sont des enfants qui vont avoir des symptômes extrêmement bruyants, porte agitation à l'école, agressivité envers les camarades. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui sont comme ça sont victimes, hein. Attention, mais difficulté à supporter le cadre, tendance à être classique, c'est-à-dire à casser beaucoup le matériel, les trucs des copains, forte agressivité. Et puis on va avoir à l'inverse des enfants où ça va être très difficile de les repérer, ceux-là, qui vont ne pas faire bruit, qui vont prendre l'habitude de ne pas contrarier, qui vont prendre l'habitude de se fondre dans le décor comme s'ils voulaient ne rien déclencher. On peut avoir même des nourrissons, des bébés qui font leur nuit très très vite, comme s'il fallait pas contrarier ou réveiller les parents, quoi. Donc c'est assez varié, les signes chez les enfants. Mais en gros, ce sont des enfants qui inquiètent par leur inhibition trop forte, qu'on n'entend pas, qu'on voit pas, qui manifestent rien du tout, ou par une agitation trop forte. Après, il y a tous les symptômes classiques des enfants qui manifestent, des enfants quand ils veulent manifester, quand ils peuvent manifester un symptôme ou une inquiétude, quelque chose qui se passe chez eux, ça va se manifester sur le sommeil, trouble du sommeil, hypersomnie ou insomnie, difficulté d'endormissement, cauchemar à répétition, trouble de l'alimentation, je me remplis en permanence ou au contraire, je ne mange plus rien. Voilà, c'est toujours des choses très excessives.
On va faire face à des schémas assez répétitifs qui vont avoir de lourdes conséquences. Par exemple, en milieu scolaire, est-ce que vous savez si on est sensibilisé à ça?
En milieu scolaire, en fait, les instituts, ils sont en capacité, les infirmiers scolaires encore plus, les psychologues et les médecins scolaires encore plus, mais on est en capacité de repérer des comportements justement excessifs dans un sens ou dans l'autre. Après, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de repérer les troubles d'un enfant inhibé que d'un enfant dont les troubles vont être bruyants. Un enfant pénible en classe, en fait, comme il va déranger l'adulte, il va forcément faire plus de bruit et être beaucoup plus facilement visible. Un enfant qui fait pas de bruit, typiquement la petite fille qui fait pas de bruit, qui est au fond de la classe, qui est très scolaire, qui bouge pas une oreille, qui ne demande jamais rien, elle, on peut passer à côté, beaucoup plus facilement.
Et est-ce que les parents, il y a des schémas où ils peuvent mettre une pression aux enfants pour éviter les dénonciations?
Oui, alors en fait, c'est le cas très souvent de façon implicite. Pour une raison simple, si dans le cas d'une violence, des violences répétées du père sur la mère, par exemple, il va y avoir une identification aux parents avec l'idée que si maman ne dénonce pas, je ne dénonce pas. Mais il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que pour un enfant, ce qu'il vit avec son papa et sa maman, c'est une norme. D'accord ? C'est-à-dire que pour un enfant, la violence peut être une norme, l'inceste peut être une norme, et contrairement à ce qu'on imagine, nous, adultes, avec notre regard d'adulte, on pense que les enfants souvent ne dénoncent pas par peur, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne dénoncent pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose à dénoncer. C'est en grandissant et la confrontation avec la société et l'extérieur qu'on va mesurer le caractère inadapté ou particulièrement violent d'un comportement. Mais quand on est petit, on le remet pas en question. C'est le comportement de nos parents. C'est une norme.
Et puisque vous nous parlez de ça, est-ce que ça expliquerait aussi que certaines victimes ont du mal à partir ou à dénoncer ces violences? Bon, là, on parle du cas des enfants, mais pour les violences conjugales aussi, est-ce que ça, c'est le même schéma?
Alors, d'abord, il y a la question de est-ce qu'on est dans un schéma de répétition? C'est-à-dire, si j'ai eu des parents violents, qui eux-mêmes avaient des parents violents et que j'ai un conjoint violent, on est dans un schéma de répétition. C'est beaucoup plus difficile d'en sortir puisqu'il y a une forme de banalisation très très fortement ancrée et une forme de on s'est conformé à ce fonctionnement-là, c'est-à-dire avec une lecture un peu déformée. Par exemple, il est violent parce qu'il m'aime. C'est pas ça l'amour, hein. Mais ça peut être interprété sur ce registre-là puisque c'est comme ça que ça a été dans la famille. Donc ça, on ne dénonce pas ou on part pas. Parce qu'on est quand même adulte inscrit dans ce schéma parfois. Sinon, ce qui fait qu'on dénonce pas ou qu'on part pas, c'est la relation d'emprise. Au-delà de la banalisation. La relation d'emprise qui fait que, un, j'ai une dépendance à l'autre, complète, et que du coup, c'est vraiment, vraiment une relation de dépendance, donc je ne peux pas m'en passer. La deuxième chose, c'est la banalisation. C'est pas si grave. Il s'est énervé, elle s'est excusée, elle voulait pas me faire du mal, il voulait pas à ce point, oui mais on s'aime, oui mais le week-end dernier ça s'est bien passé. Donc la banalisation fait qu'on repousse les dénonciations ou que parfois on revient dessus. Et puis c'est un des effets pervers du retournement dans la relation d'emprise. Quand l'autre passe son temps à me regarder dans quel état tu m'amuses ou dans quel état tu m'amuses, j'ai le sentiment que je provoque quelque chose de la violence. Et si j'ai le sentiment que je provoque quelque chose de la violence, ça veut dire aussi que par mes comportements, je peux arrêter de la provoquer et faire en sorte que l'autre ne soit plus violent. Et donc, on rentre dans ce mécanisme. Du coup, je ne vais pas dénoncer quelque chose dans lequel que j'ai provoqué moi ou sur lequel je pourrais agir si j'insiste un petit peu.
Et justement, en tant que personne un peu extérieure et proche, par exemple, de victimes, comment on peut aider une personne qui subit des violences sans la brusquer ni la mettre en danger, puisqu'on sait que c'est très délicat comme sujet, et comment on peut les aider, justement?
Le plus gros risque, c'est effectivement la mise en danger. Le deuxième plus gros risque auquel on ne pense pas, c'est que quand on aide, quand on mobilise beaucoup d'énergie, par exemple, à accompagner quelqu'un pour qu'il dénonce des faits ou pour qu'il quitte le domicile, qu'on met énormément de choses en place, qu'on fait appel à plein de professionnels et que la personne y retourne, ça fait vivre quelque chose d'extrêmement violent. Donc ça, faut y être préparé. La première chose, c'est qu'il y a une différence entre brusquer et tendre des perches. C'est pas tout à fait pareil. De tendre des perches et d'amener l'idée que peut-être cette relation n'a quand même pas l'air bien normale, que peut-être c'est quand même pas très adapté, que ça a l'air quand même violent, mais que ça c'est pas très autorisé par la loi. C'est pas tout à fait la même chose que de brusquer et de dire, mais enfin tu vois pas, faut que tu partes, etc. Je crois que ce qui est important, c'est de considérer que quelqu'un qui est pris dans des violences conjugales, quand il y a une relation d'emprise, ou quand il y a des violences d'un parent sur un enfant à répétition depuis des années, en tout cas, en particulier dans la violence conjugale, il y a une relation de dépendance. La relation de l'enfant maltraité par ses parents, c'est une relation de dépendance réelle, puisque c'est le parent. Et dans la violence conjugale, c'est une relation de dépendance affective, une relation de dépendance avec une confusion avec l'amour. Et souvent, je dis aux accompagnants, gardez en tête que considérez que vous travaillez avec quelqu'un qui a une addiction. Parce que sinon, Je vous disais, on s'agace vite ou on se désespère vite du fait que les gens n'aient pas la même temporalité que nous. Quand nous, on prend conscience des violences et qu'il faut que la personne, elle parte, on n'est pas dans la même temporalité qu'elle. Elle n'en est peut-être même pas encore consciente, ou on en a très envie, mais elle n'ose pas, ou elle l'a déjà fait 3 fois, mais elle ne l'a jamais dit. Enfin, donc ça, c'est très compliqué de ne pas brusquer. Mais il faut surtout, l'important quand on accompagne des gens, c'est d'avoir la capacité à résister. Résister, savoir qu'il va y avoir, risque d'y avoir des retours en arrière, des allers-retours fréquents, qu'il faut considérer que c'est comme une addiction et qu'on fait ce qu'on peut avec la temporalité de la personne sans la maltraiter. Au risque de devenir soi-même trop brusquant, quoi.
Et côté association, il y a de plus en plus d'associations qui sont mises en place. Est-ce que vous, psychologue, vous arrivez à interagir avec ces associations et collaborer?
Ah bah alors moi je viens du service d'aide aux victimes, hein. J'ai été la première psy de la région à accueillir les enfants victimes, donc oui je bosse beaucoup avec les associations. Après il y en a pas de plus en plus, il y a une grosse différence entre les associations d'aide aux victimes et les associations de victimes. Les associations de victimes, c'est pour regrouper, fédérer et se soutenir, alors que les associations d'aide aux victimes sont des associations de professionnels, parfois avec des bénévoles, qui vont permettre une prise en charge. Donc oui, après, il y a essentiellement SOS Violence Conjugale qui intervient, essentiellement Service d'aide aux victimes et le Service de médecine légale qui interviennent dans la prise en charge du traumatisme des victimes directes et ou indirectes. Et puis l'association Espace qui aide et spécialise dans la prise en charge des enfants, mais aussi des majeurs ayant vécu des violences sexuelles. Après, il y a d'autres associations, hein, je ne veux pas, il y a Enfance et Partage, il y en a plein d'autres, mais c'est les trois avec lesquelles j'ai le plus travaillé, c'est celles avec lesquelles j'ai le plus travaillé dans ma vie.
Enfin, quelles évolutions, vous en parliez au début, quelles évolutions avez-vous pu observer ces dernières années vis-à-vis du sujet, au niveau de la sensibilisation, du traitement aussi des personnes qui sont victimes et témoins?
Alors moi, je vais aller à l'encontre de tout ce qui est dit depuis longtemps et je suis pas... évidemment, il y a beaucoup de progrès à faire. Évidemment, il y a encore plein de situations où les gens sont mal accueillis au commissariat, où la plainte est pas prise. Il y a plein de situations où les gens sont dans la banalisation. Voilà, il y a encore plein de situations où c'est pas assez pris en compte. En revanche, pour faire de l'aide aux victimes et de l'accompagnement depuis bientôt 20 ans, je peux vous dire qu'il y a eu une sacrée évolution, déjà sur la prise en compte du fait que l'exposition indirecte est aussi une exposition et met l'enfant en position de victime, la prise en compte de la parole, la prise en compte, on est quand même beaucoup moins dans la banalisation des faits. Bon, il y a 20 ans, je pouvais entendre très régulièrement « c'est qu'une agression sexuelle ». Ça, c'est une phrase que je n'entends plus de la part des professionnels, par exemple.
Et vous le ressentez, vous, en tant que professionnel, vous qui recevez des victimes, que les choses ont changé, les choses ont évolué?
J'ai pas entendu le début de votre phrase. Excusez-moi.
Vous, en tant que professionnel, est-ce que vous le ressentez que ces violences-là, que la sensibilisation a évolué?
Oui. Je le ressens surtout aux autres professionnels. C'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de travailler avec la justice et la police et plein d'autres institutions pour amener la voix de l'enfant aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est sûr. Ça a beaucoup évolué. D'abord parce que la psychologie s'est démocratisée. Ensuite, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été dénoncées. Après, la difficulté, c'est de pas tout le temps hystériser le débat et de pas être tout le temps dans l'émotion. Je pense que c'est important de rester professionnel et justement de se former, de former les autres, d'informer le plus possible.
Et si justement vous aviez un message clé à faire passer aujourd'hui
La première chose, c'est peut-être de faire un peu plus confiance aux professionnels et à la loi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi, moi, j'entends encore beaucoup le « je dépose pas plainte, on va pas me croire ». Je veux pas le dire parce que il va me retrouver qu'il est au-dessus des lois. Il y a plein de situations où ça dysfonctionne. Il y a encore beaucoup de dysfonctionnements, mais il y a aussi maintenant plein de situations où ça fonctionne bien, où on protège les gens, où on met à l'abri, où on entend la parole, où on soigne, où on accompagne. Après, de toute façon, le pire, c'est de ne rien dire. C'est-à-dire que vraiment, il vaut même mieux une plainte classée que jamais. Le pire, c'est de ne rien dire. Symboliquement, c'est hyper important d'agir. Il y avait une étude qui était sortie sur le fait que dans les violences conjugales, il y avait beaucoup moins de répétitions d'une génération à l'autre quand la loi était intervenue, même si elle était intervenue mal. C'est-à-dire que même s'il y a eu un classement sans suite, même s'il y avait eu un risque de placement, le fait d'amener du tiers le fait de sortir de ce huis clos familial, d'amener de la loi, du tiers ou des regards extérieurs, c'est ce qu'il y a de plus efficace en fait. C'est la seule chose qui brise l'emprise et la banalisation et qui permet de sortir de ce sentiment de dépendance absolue.
Merci beaucoup, Caroline Gaillard, pour votre témoignage et votre temps. Merci à aussi ceux et celles qui nous écoutent. On arrive
Merci
déjà à la fin de cette émission.
Au sujet.
C'est normal, c'est actuel, c'est important. Si vous avez besoin d'aide ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, n'hésitez pas à en parler. Vous n'êtes pas seul. Appelez le 3919. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt et merci beaucoup.